bouche à l'oreille.
Promouvoir la biodiversité de proximité.
Are you ready to go, Charlotte?
Yeah, of course.
Ok, go, go.
Ça y est, on y est, Sébastien. Bonjour.
Bonjour, Charlotte. Bonjour, tout le monde.
Aujourd'hui, on revient à nos amis les oiseaux.
Oui.
Avec une drôle d'espèce, c'est la première fois que j'entends son joli nom, la bondrée apivore.
Voilà, c'est le dernier épisode de la saison de l'été, parce que de fin d'été. Donc on est revenu un petit peu dans les Bauges, on la voit près de chez nous, mais c'est un oiseau qu'on ne voit que l'été. Et voilà, donc là elle est partie là.
Alors on parle là, elle est partie.
Mais, ouais. Mais je l'ai observée au Marais de Lavour, donc pas très loin. Je ne sais plus, là-bas, près de là-bas, pas loin.
Et, je vois.
Tu vois bien
ouais.
Et ça ressemble à une buse variable, mais on va voir comment la distinguer.
Eh bien, par son plumage déjà, peut-être?
Eh bien, pas du tout.
Ça ne nous aide pas?
Non, vraiment. Toi, tu vas
parce
être recalé en fin d'année, tu as intérêt à progresser.
C'est dur, c'est dur. Pourtant, je prends des notes. Hein.
Alors, le plumage, il est très proche de celui de la buse variable. Et en plus, comme la buse variable, il est très variable. Donc, on ne se fie pas au plumage.
Alors, à quoi est-ce qu'on peut se fier?
On se fie à la forme. La tête de la bondrée, elle est très fine et le cou, il est assez long. Quand tu vois des photos, alors pas quand tu la vois voler, hein, mais quand tu vois des photos, tu as l'impression d'un rapace avec une tête de pigeon.
Ah oui, c'est vrai que c'est assez, assez marquant.
C'est marquant. Alors que la buse, elle a une tête un peu plus large et puis on dirait qu'elle a la tête engoncée comme ça dans les épaules, qu'elle n'est pas très contente. Mais voilà, ce n'est pas, on distingue bien par rapport à ça. De très près, la bondrée apivore, le mâle a la tête grise sur les côtés des joues et puis sur le crâne, alors que la femelle a la tête marron. Mais ça, c'est vraiment de très près. L'autre indice, c'est la queue. La queue, elle est aussi longue, voire plus que la largeur de l'aile. Donc ça, quand tu l'observes en train de planer, c'est facile. Tu imagines la longueur de la queue, tu décales au niveau de la base de l'aile. Si c'est plus long, c'est une bondrée apivore. Et puis, là, il faut être un peu plus connaisseur. Le vol battu, il est plus ample, plus lent et plus souple chez la bondrée que chez la buse.
Où est-ce qu'on...
Oui. Et pardon, dernier petit détail, en espérant qu'on puisse vous mettre ça en podcast, le cri. Le cri de la bondrée apivore que je n'imiterai pas est très particulier et c'est pas du tout le cri de la buse variable. Donc, ça permet aussi de les distinguer.
Même pour nous, Sébastien?
Non, même pour vous.
Où est-ce qu'on peut l'observer, cet oiseau?
Eh bien, finalement, un peu dans les mêmes milieux que la buse variable. Elle a besoin de deux types de milieux, comme la buse. Un milieu forestier mature, c'est-à-dire une belle forêt, pour la reproduction, pour installer son nid au sommet d'un grand arbre. Et des milieux plus ouverts pour la chasse.
Vas-y, vas-y.
Ça peut être des espaces ouverts ou semi-ouverts, qu'ils soient naturels ou pas. Mais ce qu'il faut, c'est que ça héberge une entomofaune riche.
Bien sûr, une entomofaune, ça me parle tout à fait.
Eh bien, faune, c'est les animaux, entomo, c'est les insectes, donc qui hébergent de nombreux insectes. Particulièrement des hyménoptères, ça tu sais, ce sont...
Les guêpes ou les bourdons.
Et
les abeilles.
Ouais, bien joli, bien joué. Donc, des hyménoptères coloniaux de préférence, comme les guêpes et les bourdons qui font leur nid souvent dans le sol. Donc, c'est quoi les milieux qu'elle affectionne? C'est les lisières de forêt, c'est les larges clairières, c'est les pelouses, les prairies, les pâtures, les landes, les friches, les vergers et autres espaces où la pression de l'homme n'est pas trop importante.
Mais on l'a annoncé, hein, c'est une espèce qui migre.
Oui, et donc en Afrique, elle va aussi aimer les boisements et ce qu'elle préfère, c'est la savane arborée, car là-dedans, il y a une entomofaune riche. Alors au niveau du comportement, on va commencer par le comportement, il y a la période de repro où elle est très territoriale, elle vit en couple et ils défendent leur petit territoire. En dehors de ça, très rapidement, dès que les jeunes y sont autonomes, boum, tout le monde se réunit et ils vont migrer en groupe. C'est intéressant pour eux parce que par observation mutuelle, ça leur permet de trouver les bons ascendants. Comme tu me disais, les parapentistes.
Tout à fait.
Donc, elles sont là, plus ou moins. Et puis, dès qu'elles en voient une qui s'élève toute seule sans rien faire, elles disent « Hop, 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 on va aller là-bas ». Et ça leur fait gagner beaucoup d'énergie.
Un trait caractéristique, c'est leurs pattes.
Oui, elles ont des pattes qui sont robustes et des doigts qui sont bien griffus. On va voir pourquoi après. Donc, comme la buse, elles se déplacent très souvent au sol. Et ces pattes griffues, elles lui servent parce que, on a dit, hein, elle recherche les insectes, donc on va se dire, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses pattes griffues pour manger des guêpes. Mais comme elle va aller chercher les nids des guêpes qui vivent sous terre, elle va les déterrer. Elle peut creuser jusqu'à 40 cm dans le sol pour récupérer ces petites réserves de nourriture.
D'ailleurs, ça, c'est dit dans le nom de cette espèce, un bondré apivore. Voilà.
C'est ça. Api, ça veut dire abeille. Vore, ça veut dire qui mange, donc qui mange des abeilles. Alors, elle mange des hyménoptères en général. Évidemment, si en grattant devant la ruche, ça, c'était possible de l'ouvrir, elle mangerait ce qu'il y a dans la ruche. Heureusement, les ruches sont en bois et elles n'y arrivent pas. Mais c'est intéressant de récupérer, elle pourrait aussi survoler les champs et manger guêpe par guêpe ou abeille par abeille qui sont en train de butiner. Mais chercher les nids, c'est quand même vachement plus efficace. Ça augmente la quantité de bestioles. Tu vas trouver un nid, tu as plein d'insectes dedans. Et surtout, elle va récupérer le couvain. Qui est, donc je le rappelle, hein, que ce soit les guêpes ou les abeilles, elles font des alvéoles et la femelle, la reine, elle va pondre des larves. Ces larves, elles vont grossir, elles sont nourries par les autres guêpes et abeilles ouvrières, jusqu'à ensuite sortir et puis avoir leurs ailes, voilà. Mais donc la larve, à un moment donné, elle est très juteuse, très un bon morceau, tu vois, un petit peu des cajou wasabi, tu vois, et bon, peut-être pas si gros quand même, mais... Et c'est ça que va récupérer la bondrée. Elle va récupérer carrément les rayons entiers pour se nourrir elle, mais surtout pour aller nourrir ses jeunes.
Et oui, ça doit être bien nutritif tout ça.
C'est clair. Ouais. Elle va donc choper les nids souterrains, mais si elle trouve un nid de guêpe accroché dans un arbre, elle y va. Si elle trouve un nid de frelon à pattes jaunes dans un arbre, elle y va. J'ai vu une vidéo, je vous laisse taper ça sur Internet, c'est impressionnant. Elles sont plusieurs, elles sont deux bondrées apivores. Elles arrivent assez rapidement sur le nid. Elle tape dedans, en fait, l'idée c'est sans doute de le faire tomber pour pouvoir le manger tranquillement au sol. Sauf que les frelons, pas contents les frelons. Donc on voit bien la bondrée repartir, on voit bien 15-20 frelons la suivre. Mais c'est pas grave, elle revient, paf, elle retape dedans, c'est impressionnant.
Mais elle risque pas de mourir par les piqûres ?
Et non, elle a des adaptations. Donc déjà sur le plumage, impossible. Il y a trop d'épaisseur de plumage pour aller être piqué. Sur les pattes, il y a des écailles. Donc c'est pareil, pas possible de piquer. Le seul risque, c'est la peau qui est autour de la base du bec et autour des yeux. Et ben, vous regarderez bien sur le podcast. On voit sur la photo, sur une des photos où en gros plan, on a la tête, on voit très bien. Il y a de toutes petites plumes qui sont très raides qui ressemblent vraiment à des écailles. Et ça va permettre de protéger des piqûres des hyménoptères.
Donc les photos, hein, c'est sur le site radioalto.info. Vous tapez la puce à l'oreille et vous tomberez dessus. Si elle ne trouve pas de guêpes, d'abeilles, est-ce qu'elle peut manger autre chose ?
Eh bien oui, elle ne va pas se laisser mourir de faim. Donc elle va manger des amphibiens, elle va manger des lézards et d'autres insectes. Et puis au cas où, si elle trouve un petit oisillon par là pour se mettre sous le bec, elle n'hésite pas. Elles arrivent tard, les bondrées apivores. Et effectivement, on a compris pourquoi. Elles arrivent en mai parce qu'elles ont un régime insectivore. Et donc, il faut attendre qu'il y ait du couvain, etc. Donc ça ne sert à rien qu'elles arrivent trop tôt. Elles ne trouveront pas à manger ce qu'elles mangent habituellement. Dès qu'elles arrivent, le couple il arrive déjà uni. Et souvent, ils réutilisent l'air ou pas, selon l'état dans lequel il est. Un peu comme le Milan. On va voir, il y a quelques similitudes avec le Milan dont on a déjà parlé.
Comment s'est fait la parade ?
Alors, la parade nuptiale, elle est assez spécifique, on voit ça que chez eux. Le mâle, il va s'élever dans le ciel en cercle, en poussant son cri caractéristique. Puis, il s'immobilise et là, d'un coup, il relève ses ailes sur son dos et il les agite 3 ou 4 fois au-dessus de son dos. On dirait qu'il applaudit. D'ailleurs, on dit, tiens, là, il y a une bondrée apivore qui applaudit. Et puis, il reprend son vol, il remonte un peu plus haut et il retape des ailes comme ça, voilà. Donc ça, c'est caractéristique. Si vous observez ça, d'abord, vous me le dites. Et ensuite, vous avez affaire à une bondrée apivore.
Ensuite, donc, ils migrent, ils arrivent, ils s'installent. S'ils récupèrent leur aire ou s'ils en construisent une nouvelle, qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce nid ?
Alors, il est haut dans un arbre. Il va être assez volumineux s'il a utilisé une base d'un autre nid de rapace. Sinon, il sera de taille standard. Et pareil, similitude avec le Milan, il est garni de rameaux feuillés. Sauf que le Milan, il fait ça au début, parce que c'est joli. Et bien ici, la bondrée apivore, tout le long de la saison, elle va ramener des rameaux feuillés. Madame aime le vert.
C'est oui, ça, la fraîcheur, bien sûr, bien évidemment. Oui. Il va y avoir beaucoup de petits dans ce nid ?
Alors, il va y en avoir 2, alors ça peut aller de 1 à 5, je crois, mais 2 en moyenne, qui sont couvés simultanément pendant 1 mois. Il n'y a pas, donc, s'ils sont couvés simultanément, c'est qu'il n'y a pas de naissance échelonnée. Chez d'autres espèces, on l'a vu, dès le premier œuf pondu, sachant que les œufs sont pondus un tous les 3 jours, dès le premier œuf pondu, les femelles couvent. Ce qui fait que quand tu as 5 œuf, et bien quand ils naissent, c'est les Dalton, tu vois. T'en as un petit peu de tous les niveaux. Et qui fait que si jamais la pénurie de nourriture ou les parents sont un peu gauches, ils n'arrivent pas à ramener grand-chose à manger, et bien le petit dernier sert
de casse-croûte.
De casse-croûte au grand. C'est ce qu'on appelle l'efficacité.
Donc a priori, ça ne va pas arriver.
Ça n'arrive pas ici, puisqu'elle couve quand tous les œufs sont pondus, et donc les petits ont le même âge quand ils naissent.
Et donc les petits ne vont pas manger leurs frères, mais ils vont manger le contenu des rayons.
C'est ça. Le père, il apporte les rayons de couvain, et la mère, elle extrait les larves et les nymphes, et elle nourrit ses petits. À un mois, les jeunes, ils sont volants, ils sont capables de manger ce qu'apportent les parents. Et souvent, même s'ils sont loin, enfin loin, plus ou moins loin de l'air, ils aiment bien se retrouver au nid pour manger. Et puis pour retrouver les parents, il y a vraiment une relation importante, ça a l'air d'être spécifié comme ça en tout cas, entre les petits et les adultes, qui est chose qu'on ne trouve pas chez toutes les espèces. Et puis les jeunes, ils sont autonomes à l'âge de 3 ou 4 mois, où là, ils se débrouillent pour se nourrir.
Et puis pour repartir.
Voilà, bah ils vont se réunir avec leurs parents et d'autres, et c'est ce qu'on a vu là, les regroupements pré-migratoires, pour partir tous ensemble.
On complète cette chronique par une vidéo en lien dans le podcast où vous pourrez voir cette bonderie apivore gratter dans le sol.
Oui, et sortir un rayon et après elle s'envole, donc c'est pas pour manger elle, c'est bien pour donner à ses petits.
Très bien, et bien voilà, ça c'est passionnant, vous avez de quoi potasser jusqu'à mai prochain, et puis mai prochain vous nous envoyez une petite vidéo.
Voilà, d'une bonderie apivore qui applaudit.
Rien que ça. Allez, il faut avoir des défis dans la vie, hein. Merci beaucoup Sébastien.
Et à la semaine prochaine.
Vous venez d'écouter La Puce à l'oreille,
la chronique biodiversité de Radio Alto.
Retrouvez-la en podcast sur le site radioalto.info
et sur le site colocataire.com. terre, T-E-2-R-E.